Gérard Auger nous présente la bibliographie. On est toujours en partenariat donc avec la librairie Les Chemins de l'Ancre de Conques. Et donc, Marie, avant de partir en vacances, on a collaboré à sa bibliographie. Et donc, vous avez ça sur la table là-bas. Gérard, je vous souhaite une bonne soirée à vous deux et à nous. Et ensuite, la bibliographie.
On commence par la présentation des livres.
Voilà, comme on faisait.
D'accord.
Alors, bon, excuse-moi, tu voulais le passer ailleurs ?
Non, pas du tout, c'est parti. Et comme ça, on aura le débat et la présentation. Donc, ce soir, il y a une bibliographie, une table de livres très attractive, dans la mesure où il y a très peu de livres théoriques et beaucoup de romans. Alors, dans les romans, je vais être assez rapide, on ne va pas empiéter sur la soirée. J'ai les grands classiques, hein, Gilbert Cesbron, Chien perdu sans collier, Bernard Clavel, Malataverne, j'en ai qu'un exemplaire. Bon, ce sont des livres qui sont édités en poche, qui sont donc accessibles, autant dans le prix que dans la lecture. Tout ça, ça se lit très bien. J'ai notamment Michel Bussy, qui le connaissent, c'est un auteur de best-seller qui a fait sous forme de thriller. C'est tout en rapport avec des parcours d'enfants ou d'adolescents. Entendons-nous bien. Howard Buten, qui est un spécialiste de l'enfance, il est pédopsychiatre, hein, il est psychologue, clinicien, c'est lui qui fait le clown Buffo dans les hôpitaux, il est connu, hein. Il a écrit ça, quand j'avais 5 ans je m'ai tué, c'est pareil, ça se lit très bien. On a l'autobiographie d'une courgette, c'est l'affiche du film. C'est sorti, Ma vie de courgette, c'est sorti en film récemment. Donc ça c'est pareil, ça se lit très bien. C'est une histoire pleine de rebondissements et voilà. J'ai deux romans plutôt du type roman noir policier, Thierry Jonquet. Ils sont votre épouvante et vous êtes leur crainte. C'est surtout pour le titre. Alors, le contexte, c'est effectivement une histoire qui se passe dans une banlieue, zone industrielle, bagarre entre bandes rivales, l'influence des salafistes, etc., etc. Mais il a pris comme titre une phrase d'un poème de Victor Hugo qui a été écrit pour rendre hommage aux fusillés de la Commune. Et donc, il l'a adapté à cette catégorie de population qu'il décrit dans ce roman. Donc, j'en ai un autre de lui, La vie de ma mère. C'est pareil, c'est en rapport avec une histoire d'enfant malmené. Tim Guénard, en parlant d'enfance meurtrie, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent certainement, c'est quelqu'un qui est très connu, qui fait des conférences, qui fait tout un parcours de transmission auprès des jeunes. Il a eu une enfance complètement bousillée, meurtrie. Il a été massacré par les violences familiales, paternelles notamment. Il a été rejeté. Il a vécu vraiment très mal. Il s'en est sorti. C'est un peu le cas de ce que Boris Cyrulnik appelait la résilience. Il en est l'illustration de ce concept. De l'horreur au pardon, il a sous-titré ce livre, et c'est son histoire, mais ça se lit comme un roman, ça se lit vraiment très facilement. Guy Gilbert, je ne vous présente plus non plus, c'est le prêtre Loubard, enfin qui lui se dit prêtre éducateur, donc qui décrit, comme on le sait, tout ce qui peut être... tout ce que peuvent être les obstacles dans la société actuelle pour les jeunes à trouver leur place. Je pense qu'on peut le résumer comme ça. Tout ça c'est dans la catégorie roman. Tout ça se lit très bien. J'ai deux romans pour ados. J'en avais commandé plus, j'en ai eu que deux. Ça c'est typiquement littérature ado. Et ça met en scène de la même façon des jeunes qui sont à la frange, à la limite de l'acte du délit, de la marginalité et qui évoluent dans un contexte particulier. Donc ça c'est pour ados. Françoise Dolto avec sa fille Catherine. Françoise Dolto qui est décédée maintenant, elle est morte en 80. Elle était très connue, elle passait dans les radios, elle était très médiatique, elle avait une façon très facile de faire comprendre les questions de l'adolescence. Elle était d'une grande aide aux parents dans leur compréhension de cette période difficile et des questions que pouvaient leur poser les ados. Elle a écrit « Paroles pour adolescents », alors ça c'est avec sa fille, c'est donc ça, c'est un bouquin qui, à partir d'exemples, donne des quelques solutions, quelques pistes de compréhension et de réaction par rapport à ce qu'on peut estimer d'un adolescent qui est, dont on se demande s'il n'entre pas dans une pathologie, dans une maladie mentale, si ce qu'il donne à voir, ce qu'il remet en question, ses réactions ne sont pas quelque chose de pas normal. Voilà. Donc elle explique tout ça. J'ai des bouquins plus... Ah, si, ça c'est pas théorique, c'est « La justice et les enfants ». C'est un petit bouquin de Jean-Pierre Rosenfeld, qui est le président du tribunal pour enfants de Bobigny, qui fait un travail considérable d'explication et de... Ah oui, tout à fait. Et Huyette aussi, Michel Huyette... Pareil, ils ont des sites internet, ils expliquent vraiment tout ce qui peut concerner la justice des mineurs. Il a fait un petit bouquin qui est un point bête, en fait, qui est vraiment très bien fait, qui coûte 3 euros et qui balaye vraiment tous les champs de l'intervention de la justice avec les enfants, aussi bien en protection que par rapport à la délinquance. Donc la justice et les enfants. Alice Miller, ça c'est déjà un peu plus costaud pour la lecture. Racine de la violence dans l'éducation de l'enfant. Bon, ça c'est pour qui veut découvrir. Jean-Marie Petitclerc qui écrit sur Il était éducateur. C'est un bouquin qui date peut-être un peu. Un bouquin accessible hein, qui pose bien la question entre l'éducation et la sanction, la répression. On en parlera, mais c'est une période, c'est une question qui se pose largement à notre époque. Jean-Luc Enoudi, lui aussi, il est mort. Il était éducateur à la protection judiciaire de la jeunesse. Il a un parcours donc assez... historique dans son livre, tout est bien expliqué, les mineurs en justice, le contexte, etc. Il y a même un chapitre qui se situe en Aveyron. Ouais, il y a un chapitre sur l'Aveyron, il est passé par là, il n'en parle. Alors, le reproche que je ferais à Petitclerc, c'est qu'il a écrit ce bouquin à une période où les jeunes faisaient peur et où on pensait que la violence, les jeunes étaient délinquants de plus en plus jeunes, que la violence, les violences étaient de pire, ça croissait. Alors que bon, on s'est rendu compte par la suite qu'il y avait une utilisation politique, je dirais, très marquée dans les années 2000, notamment 2002. Rappelez-vous, Sarkozy, on va les nettoyer au Karcher, parlant de la délinquance dans les banlieues, enfin, ces choses-là. Et bon, on s'est rendu compte qu'il y avait une utilisation dramatique de ces statistiques et de cet état de fait et qu'il fallait le réduire absolument. Travail qu'a effectué Laurent Michieli, qui est un sociologue qui, depuis qu'il exerce, s'est attaché à la justice des mineurs, à la délinquance, et surtout comme grand clarificateur, je dirais, et démystificateur de ces peurs qu'on pouvait avoir de notre jeunesse, d'une certaine partie de notre jeunesse, et notamment au niveau de la remise à plat de toute l'utilisation des statistiques dans un esprit manipulateur. Donc il a écrit ça, enfin il ne l'a pas écrit, il a un article dedans, mais c'est une compilation d'articles sur la question, très intéressant. Ça se lit assez bien aussi. Une autre éducatrice aussi, c'est Valérie Legoisiot, Véronique Legoisiot, pardon, qui est une comparse de Laurent Luchelli, qui travaille ensemble au CNRS, qui a écrit sur les banlieues dans la série « Les reçus ». Là encore, dans l'idée d'une clarification des idées qui circulent dans la société actuelle et qu'il faudrait remettre un peu à leur juste mesure. Voilà. J'ai aussi donc ça c'est déjà plus spécialisé, ce sont des livres de publications d'articles professionnels un peu, hein, qui sont là pour vous les consulter, acheter si ça vous intéresse, si vous voulez vraiment approfondir le sujet. Et sur la table qui est là-bas, ce sont des livres à donner. C'est toute une série de livres qui peuvent partir et qui peuvent intéresser, mais qui sont, pareil, pour des gens qui veulent approfondir la question et presque dans un parcours qui s'oriente vers l'activité professionnelle. Ben vous, libre à vous de consulter. Donc je vous encourage à venir pendant l'entracte pour voir un petit peu ce que je vous propose et en discuter éventuellement. Voilà, je laisse la parole à Jean-Marie.
Quelques préalables, mais le plus rapide possible quand même, c'est je voudrais remercier l'équipe des jeudis en question, d'une part, remercier Gérard Rouget, mon psychologue du Centre d'orientation et d'action éducative de Rodez, qui a bien voulu compléter mon intervention au cours du débat. Et je voudrais aussi remercier Eliane, qui est mon épouse, qui ne peut pas être là ce soir parce qu'elle est en garde à Toulouse, en garde de son petit-fils qui a eu un grave accident. Et elle devait intervenir avec moi et a donc participé très largement à la préparation. Et comme elle a écrit beaucoup d'articles sur les questions de la délinquance, elle aurait été plus compétente que moi pour parler de certains thèmes. Je me souviens, ma mère m'aimait. Et je suis aux galères, je me souviens, ma mère disait, mais je n'ai pas cru ma mère. Ne traîne pas dans les ruisseaux, bats pas comme un sauvage, t'amuse pas comme les oiseaux, elle me disait d'être sage. J'ai pas tué, j'ai pas volé, je voulais courir à la chance. J'ai pas tué, j'ai pas volé, je voulais que chaque jour soit dimanche. Voilà l'introduction. Alors, j'évoquerai avec vous un rapide coup d'œil sur l'adolescence, la délinquance des mineurs, un survol de l'histoire et les réponses qui peuvent être données. Alors, l'adolescence est une période très difficile et très difficile de la définir. Alors en tout cas, c'est la période, et ça je crois que quand on aborde la délinquance, c'est important de se le rappeler, où le sujet n'est plus un enfant et il n'est pas encore un adulte. Et que là, il est dans un équilibre qui est mis à mal par ce passage-là. Alors, la puberté détermine l'entrée dans l'adolescence, son expression, ses modalités sont aussi très étroitement liés au contexte social. C'est un temps de passage où il y a un accès à un statut social, un changement de place par rapport aux parents, et c'est très important, un temps de maturité psychologique. Alors, dans le dernier numéro de psychologie, il y avait 5 raisons d'aimer la jeunesse. On les dit pessimistes et cyniques, ils croient au futur. On les dit orgueilleux et péremptoires, ils sont audacieux. On les dit démotivés et paresseux, ils sont pragmatiques. On les dit précoces et obsédés, ils réinventent le couple. On les dit égoïstes et jouisseurs, ils sont altruistes. Alors, par rapport à l'adolescence et même à la jeunesse, la question du travail est encore plus problématique aujourd'hui, c'est-à-dire que il y a 15% de 16 à 29 ans qui n'ont ni emploi, ni études, ni formation. 35% sont sur des contrats temporaires. Et c'est en même temps une période où il y a un cumul de difficultés. Alors, absence de permis pour certains, l'équipement numérique, la mauvaise santé psychique, la pauvreté, les discriminations, etc. Alors je crois que c'est extrêmement important. Alors quand j'ai commencé en 1960 à Versailles, à un foyer, un jeune arrivait dans le foyer, le lendemain il avait du boulot. Aujourd'hui c'est vraiment plus le cas. Et effectivement, avec ce support du travail, ça permettait quand même de conduire un travail éducatif intéressant. Alors, l'adolescence, on pourra en reparler tout à l'heure avec Gérard Roger. Alors, la délinquance des mineurs. Le rapport de l'INSEE qui a été publié en novembre 2016 et qui s'intitule « Portrait social » indique « Un homme sur cinq, âgé de 30 ans aujourd'hui, a, par le passé, été condamné. Un homme sur cinq. Homme, pas femme. Homme. Les délits types, atteinte sexuelle maximum à 14 ans. Les vols et violences maximum à 16 ans. Les stupéfiants maximum à 18 ans. Et les infractions routières à 22 ans. Alors c'est vrai que dans les délits, on introduit les infractions routières. Alors chez les filles, par contre, la délinquance est assez marginale et ce sont essentiellement des vols, des recels, des violences volontaires et il y en aurait 3%. Alors dans la récidive, 6 cas sur 10 ne sont condamnés qu'une seule fois. 10% ont plus de 5 condamnations avant 25 ans. Et le risque de récidive est corrélé à l'âge du premier délit. Plus celui-ci est précoce, et plus il y a de risque de récidive. Alors, les difficultés essentiellement famille, difficultés sociales, et ce qui est aussi intéressant quand même, c'est que les risques sont plus importants pour des enfants qui ont précédemment été suivis en assistance éducative, en protection de l'enfance. Alors, deux mots sur l'Aveyron, sur Rodez. En tout cas, tribunal de Rodez, il y a deux juges pour enfants, Madame Gard qui est au pénal, et Monsieur
Anselmi,
merci. Monsieur Anselmi qui est chargé des dossiers d'assistance éducative. Alors, l'assistance éducative est de la compétence du conseil départemental, dans le suivi des mesures en tout cas, et ce qui est de la délinquance est de la compétence de la protection judiciaire de la jeunesse. On reverra un peu les mesures. Au pénal, en 2015, il y a eu 95 nouvelles saisines avec des mises en examen. En 2014, il y a eu un dossier criminel et en 2017, il devrait y avoir une session d'assises suite à des viols. Alors, Monsieur Anselmi me disait que sur 100 dossiers, 90 mineurs, il ne les revoyait pas. C'est-à-dire il y avait par contre 10 sur 100 qui réitéraient des délits. Du côté de la protection de l'enfance, 580 dossiers en cours au 31 décembre 2015 et 257 nouvelles saisines. Et un fait qui est quand même important, c'est qu'il y a 25% des dossiers qui sont des séquelles de conflits conjugaux, c'est-à-dire de séparations qui sont très difficiles et qui sont conflictuelles. Voilà, j'avais noté aussi un sentiment d'insécurité cultivé. Alors, il y a un petit dossier là avec des coupures de presse. Ça, c'est intéressant, c'est-à-dire ce matin, j'ouvre les journaux, et puis il y avait hier la conférence de presse sur la délinquance, donc vous avez le compte rendu quelque part. Il y avait le bulletin du conseil départemental avec un article sur la protection de l'enfance. Voilà, et il y a en même temps une coupure de journal. Vous l'avez peut-être vu sur Decazeville, où il y a eu une motion mettant en avant la délinquance sur Decazeville, les poubelles, les délits, le bruit, etc. Et à côté de ça, voilà, c'est là-bas, mais à côté de ça, quand on consulte les commerçants, ils disent non, c'est très tranquille, et même au 1er janvier, il n'y a pas eu le moindre problème. La police dit la même chose. Et voilà. Bon, écoutez, à voir. Alors par rapport aux mesures, il y a Laurence Glédon qui est avocate qui est là. Alors pendant le débat, vous pourrez aussi l'interviewer si vous voulez. Merci Laurence d'être là. Alors il y a beaucoup de mesures de liberté surveillée qui sont des mesures de pénales, mais en milieu ouvert, et un certain nombre de contrôles judiciaires, c'est-à-dire qui sont une mesure un peu plus stricte que celle de la liberté surveillée. Alors, il y a des placements en CER, en centre éducatif renforcé, à Mende ou à Brive. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Il y en a qui sont placés à Limeyrac, qui est un centre éducatif fermé. Avec la collaboration des mairies, d'associations et autres, structures, Village 12 à Villefranche, par exemple, il y a des stages de citoyenneté, des mesures de réparation, des mesures de travail d'intérêt général et puis des activités diverses. Alors, les mesures de réparation sont intéressantes parce qu'elles peuvent permettre de mettre en relation le jeune et la victime. Alors moi, je dois reconnaître que pendant une bonne partie de ma carrière, les victimes, je ne connaissais pas. Et ça a été réintroduit, bon, il y a une dizaine ou une vingtaine d'années à peu près, et je crois que la mesure de réparation est intéressante parce que ça peut être le jeune qui va réparer une porte qu'il a cassée quelque part, qui va repeindre je ne sais quoi, enfin, qui va réparer les dégâts qu'il a fait et éventuellement en contact avec la victime. Et ce qui est intéressant parce que au moins il voit qu'il y a cette victime-là, parce que très souvent chez un jeune, la victime, qu'est-ce que c'est? On ne sait pas trop. Enfin bon, en général, c'est un vieux. Bon, donc ça n'a pas grand importance. Voilà. Et jusqu'ici, il la voyait éventuellement au moment de jugement, mais c'était tout. Alors, par rapport, oui, essayer de rappeler l'histoire quand même, qui est, me semble-t-il, importante. Il faut signaler qu'en 1807, il y avait introduit la mesure de correction paternelle. C'est-à-dire qu'un père de famille pouvait parfaitement demander à ce que son enfant soit placé et éventuellement incarcéré. C'est-à-dire que dans les prisons, on trouvait des enfants qui étaient là par décision paternelle. Enfin, conforté par la juridiction, mais c'est le père qui avait demandé à ce que son enfant soit là. Voilà. C'est un détail, enfin un détail, non, c'est quelque chose d'important. Alors là, je le reprendrai en 1810 avec le code pénal, dit code napoléonien, avec quelque chose qui est introduit et qui est intéressant, qui est que il s'agit d'un traitement qui est différent pour un mineur ayant agi sans discernement et un mineur discernant. Je crois que c'est intéressant d'avoir cette approche un peu de la personnalité par rapport au délit. Alors, la majorité pénale à ce moment-là est à 16 ans, tellement elle est à 18 ans. Elle le restera jusqu'en 1906, et là elle passe effectivement à 18 ans. Et récemment, vous l'avez peut-être vu, il y avait une proposition de loi qui n'a pas été suivie des faits, mais qui demandait à ce que la majorité pénale soit avancé à l'âge de 16 ans. On est bien, on le révoquera tout à l'heure. En 1829, il y a eu la création des bons pasteurs. Alors, les bons pasteurs accueillaient les filles. Alors, de très grands pasteurs, et bons pasteurs, il y en avait un à Rodez, entre autres. Il y a eu 40 bons pasteurs en France, et il y en a eu 400 dans le monde. Ils ont eu une influence très importante jusqu'à récemment. Enfin, je crois que maintenant, enfin, je ne sais plus trop où ça en est, mais j'ai l'impression qu'ils fonctionnent beaucoup moins. En 1840, on a créé les colonies pénitentiaires, dont celle de Maitré, où, bien plus tard, de 1926 à 1929, fut placé Jean Genet. Alors, Jean Genet a été placé à la maison de correction de Maitré, qui est à côté de Tours. Alors, et en même temps, il y a eu une circulaire qu'on appelle une circulaire Duchâtel, qui est une on tente de faire en sorte que l'éducation prenne le pas sur la répression. Mais ce ne sera pas suivi de beaucoup d'effets. Pourtant, il y avait une introduction d'une forme d'enquête sociale, une investigation préalable à la décision judiciaire et une orientation professionnelle. En 1912, création des tribunaux pour enfants et de la mesure de liberté surveillée que j'évoquais tout à l'heure. Et il y a eu la création d'institutions, par exemple, à Niane, côté de Montpellier, Saint-Maurice, à côté de Lamotte-Beuvron, et Belle-Île-la-Mer. Et en 1934, il y a eu une révolte à Belle-Île. C'est-à-dire qu'il y a un gamin qui a mangé son dessert avant la soupe, et il a été mis dehors. Enfin, bon, il y a eu problème, tout le monde s'est révolté, et tous les gamins se sont dispersés sur l'île. Bandits, voyous, voleurs, chenapans. Au-dessus de l'île, on voit des oiseaux. Tout autour de l'île, il y a de l'eau. Bandits, voyous, voleurs, chenapans. Qu'est-ce que c'est que ces hurlements? Bandits, voyous, voleurs, chenapans. C'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant. Il avait dit, j'en ai assez de la maison de redressement. Et les gardiens, à coups de clé, lui avaient brisé les dents. Et puis, il l'avait laissé étendu sur le ciment. Bandits, voyous, voleurs, chenapans. Maintenant, il s'est sauvé. Et comme une bête traquée, il galope dans la nuit. Et tous galopent après lui. Les gendarmes, les touristes, les rentiers, les artistes. Bandits, voyous, voleurs, chenapans. C'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant. Pour chasser l'enfant, pas besoin de permis. Tous les braves gens s'y sont mis. Qu'est-ce qui nage dans la nuit? Quels sont ces éclairs, ces bruits? C'est un enfant qui s'enfuit, on tire sur lui à coups de fusil. Bandits, voyous, voleurs, chenapans. Tous ces messieurs sur le rivage sont bredouilles et verts de rage. Bandits, voyous, voleurs, chenapans. Rejoindras-tu le continent? Rejoindras-tu le continent? Au-dessus de l'île, on voit des oiseaux. Tout autour de l'île, il y a de l'eau. C'est un poème de Jacques Prévert. Alors, à cette période et au moment de cette révolte, il y a un journaliste qui s'appelle Alexis Danan qui a lancé une vaste campagne de sensibilisation aux problèmes de l'enfance et de l'enfance. Alors, il y a un livre qui est intéressant, bon, il est plus en vente, mais vous devez le trouver dans les bibliothèques, c'est Les enfants du bagne de Marie Rouanet. Alors, qui traduit un peu la vie dans les bagnes. Alors, il faut savoir qu'il y en avait un à Combelle, mené par le gendre de monsieur Durand de Gros. Il y en avait un aussi à côté de Villefranche, ou Pézé, je crois que ça s'appelle, un à côté de Montpellier. Voilà. Alors, arrive la deuxième guerre mondiale, et pendant la guerre, il y a un certain nombre de mouvements qui se mettent en place et qui renouvellent les idées sur la question de la rééducation. Et ça conduit à l'ordonnance du 2 février 1945 où l'intervention judiciaire est fondée sur l'étude de la personnalité du mineur et sur sa situation familiale. Le postulat, c'est l'éducabilité de l'enfant. On crée les postes de juges des enfants, qui sont des juges spécialisés, il y a en même temps des créations d'établissements, qui sont des internats publics d'éducation surveillée, qui deviendront après des internats d'éducation surveillée. Voilà. Et un lien, même s'il faut le différencier, le 23 décembre 58, il y a une ordonnance relative à l'enfance en danger. Donc pas délinquant, enfants en danger, et cette ordonnance est confirmée par la loi du 4 juin 1970. En 1990, l'éducation surveillée devient protection judiciaire de la jeunesse, et voilà. Alors après, à la fin du XXe siècle, début du XXIe, une inflation du sentiment d'insécurité, tolérance zéro. La tolérance de zéro devient un objectif politique, une priorité nationale. Et là, on préconise des structures contenantes. Alors c'est d'abord des UER, des unités éducatives à encadrement renforcé, qui deviennent des centres éducatifs renforcés, et pour objectif l'éloignement, la présence importante de l'adulte, le temps de rupture. Alors, une parenthèse par rapport à l'éloignement, alors c'est ce dont me parlait monsieur Anselmi l'autre jour, c'est-à-dire qu'il y a un gamin qui a été placé à Marseille. Il fallait l'éloigner, il est à Marseille. Et ce gamin-là, il est en permanence en fugue. C'est-à-dire, voilà. C'est-à-dire que l'éloignement n'est pas obligatoirement une réponse. En tout cas, si elle n'est pas accompagnée. Je crois qu'il y a la proximité, mais on le réévoquera un petit peu tout à l'heure. Alors, en 2002, il y a la création des EPM, des établissements pénitentiaires pour mineurs. Il y en a un qui a été créé à Lavaur, où la maîtrise, c'est l'administration pénitentiaire, mais avec l'apport de personnel de la protection judiciaire de la jeunesse. Alors, en 2007, les lois Sarkozy, les lois Perbin 1 et Perbin 2, et en 2008, des projets de sanctions éducatives à partir de 10 ans et détention préventive à partir de 13 ans. Alors, je lisais ce matin, c'est un peu sur le journal, on ne travaille plus que sur la délinquance au mépris de l'enfance. Alors, les réponses qui sont apportées, bon, j'en ai déjà évoqué à travers l'histoire, mais deux points me paraissent intéressants d'aborder, c'est la question des institutions. Alors, la question des institutions, où certaines institutions peuvent être sur un sentiment de toute puissance, et de solitude, j'allais dire, c'est-à-dire, elles travaillent elles, il y a d'autres institutions à côté, et sans regard, sans complémentarité. Alors il y a énormément de tentatives par rapport à ça, mais je crois que c'est indispensable que les institutions puissent se connaître, échanger entre elles pour agir, sinon dans le même sens, en tout cas en connaissance de cause. L'autre question qui peut être posée et dont on pourra débattre, c'est nous, dans notre quotidien, avons-nous une place, un rôle à tenir par rapport à l'enfance délinquante, au mineur délinquant? On pourra en reparler tout à l'heure. Alors, ce que j'ai souhaité évoquer aussi, c'est la place de l'éducateur. Et Gérard Rouget, tout à l'heure, pourra compléter un peu aussi avec la place du psychologue. Tout à l'heure, en entendant de nouveau le titre de « J'ai perdu sans collier », je me suis dit que j'étais un enfant, alors vieilli bien sûr, mais de « J'ai perdu sans collier ». C'est-à-dire que le film est sorti sans doute quand moi j'ai commencé à rentrer. Alors pour la petite histoire aussi, bon, je trouve que c'est assez marrant. Alors on me demande mais comment ça se fait que tu es rentré dans le métier. Et donc j'étais en Algérie et j'étais sur un piton, enfin j'étais lieutenant et j'avais une section avec des harkis, et plutôt que de mettre au mitard les soldats qui avaient fait quelques conneries, on lui disait tu vas chez Catus, et il venait sur mon piton, et moi ça s'est toujours bien passé, voilà. Et là-dessus j'ai eu l'occasion de rencontrer des éducateurs qui y étaient, et à partir de ça, voilà, ce fut mon cheminement. Je trouve maintenant que c'est assez marrant comme origine. Voilà, c'est comme ça que naissent les vocations, n'est-ce pas? Alors, je regarde l'heure quand même, je vais essayer d'aller vite. Alors, deux mots sur l'action éducative. Alors, je crois qu'il s'agit là un petit peu de convictions un peu personnelles, susceptibles de soulever des désaccords, mais vous pourrez les manifester tout à l'heure. Pour moi, l'éducatrice, l'éducateur, doit être quelqu'un de bien dans ses sabots. Quelles que soient ses convictions personnelles, il faut qu'il soit bien dans ses baskets. Dans la relation individuelle, il est avec un sujet, le jeune qui est sorti de la piste autorisée. Voilà, il y a une piste, et puis il en est sorti de cette piste-là. Le forcer à rejoindre cette piste, le bon chemin, ça sert à rien, autant pisser dans un violon. Par contre, il peut et il doit écouter le jeune, l'écouter encore et le comprendre, et l'entendre. Voilà. Je réagis toujours un petit peu, moi, quand il y a un groupe comme ça, et puis quelqu'un arrive avec un problème, commence à l'évoquer, et aussi celle qu'il y a quelqu'un qui a la réponse. D'ailleurs, avant de savoir, au fond, quel est ce problème-là, qu'est-ce que c'est qui le fonde, ah ben, on a une réponse. Alors, c'est mettre à distance ce problème-là, c'est mettre l'autre à distance. Et je crois que ce qui est important dans le boulot éducatif, c'est de ne pas mettre l'autre à distance, de pouvoir rentrer effectivement en relation avec lui. Et dans ce cheminement, c'est arriver à piger quelles sont les forces qu'il peut y avoir dans le mineur, dans l'enfant, essayer de le comprendre de manière... Alors, les forces, les centres d'intérêt, les perspectives, parce qu'il en a obligatoirement, c'est essayer de les comprendre pour lui permettre de les utiliser et de lui-même rentrer dans un chemin qui, socialement, va être acceptable. Alors, pour ça, effectivement, il faut un cadre. C'est vrai qu'il faut un cadre, il faut poser, il y a des règles, il faut les poser, il faut les tenir, voilà. Mais c'est un cadre qui est posé, mais pas d'une manière sadique, et qui est posé de toute manière en connaissance de cause. Ah oui, alors, toujours par rapport à l'institution, alors il y a la femme éducatrice, l'homme éducateur, et... Il me paraît important de... Alors, ils interviennent dans un cadre institutionnel, et il me paraît important qu'ils soient conscients du rapport qu'ils établissent avec cette institution. C'est-à-dire que, à mon sens, il faut que l'éducateur soit quelqu'un de libre. C'est-à-dire que, dans le respect de l'institution, mais actuellement, je trouve qu'il y a un certain nombre d'institutions qui ont un cadre. Qui est posé par la hiérarchie et pas obligatoirement par le bas, et que à un moment donné, les éducateurs peuvent être trop dépendants de ce cadre-là qui ne prend pas obligatoirement en compte les besoins des enfants. Je ne sais pas si on me fait bien comprendre, c'est-à-dire je ne vais pas prendre d'exemple là, quoi, je travaille. Avec, je ne sais pas quelle institution, mais cette institution a décidé qu'il ne fallait surtout pas qu'il y ait des sorties là, que le cadre soit respecté, enfin, etc. Et l'éducateur n'a pas à être dépendant de ça. Même s'il a à le prendre en compte, à savoir qu'il ne va pas être contre l'institution, mais je crois qu'il faut qu'il ait une part de liberté importante. Il ne peut pas être soumis à l'institution. Ouais, quand on parle de cadre, effectivement, mais le cadre, il n'est pas simplement pour faire rentrer dans le droit chemin. Il sert de garde-fou, de manière à ce qu'il n'y ait pas de chute dans le ravin. Et il permet de rasséréner l'enfant aussi. Et il permet à l'enfant d'être en sécurité. Je crois que il est important que l'enfant se trouve en sécurité. Faire en sorte que l'enfant trouve des centres d'intérêt qui correspondent à ce qu'il est profondément, je l'ai déjà dit, et qui puisse remplacer les comportements inadaptés qu'il avait trouvés. Voilà, écoutez, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, c'est ça. Donc, je n'ai pas prévu ma chute. Voilà, écoutez, moi, j'en arrête là. Donc,
moi, j'insisterai un petit peu sur le passage de la dénomination éducation surveillée à protection judiciaire de la jeunesse, qui a eu lieu en 90. C'était à l'époque, moi, je sais que ça m'a boosté dans ma fonction parce que j'étais plus dans un registre de surveillance ou de contrôle. Je travaillais plus à l'éducation surveillée, je travaillais à la protection de la jeunesse. Ça, c'était autre chose, c'était une autre dimension. Et c'est dans les courants de réflexion de la Convention internationale des droits de l'enfant qui a été signée par la France en 90, qui a été ratifiée en 89 par 200 pays, pas les États-Unis d'ailleurs, ils n'ont toujours pas fait. Les États-Unis n'ont toujours pas ratifié la Convention internationale avec les droits de l'enfant. Non, je ne crois pas qu'on soit sur le chemin. Alors donc, moi j'ai vécu ce passage-là véritablement comme une positivation de ce qu'on allait faire. C'était une nouvelle façon d'être et on passait justement à cette époque-là d'une approche éducative, de compréhension et d'éducation, et de rencontre avec le jeune. Et au détriment de ce qui s'était produit avant, de la surveillance, le contrôle, la répression. Et malheureusement, dans l'évolution dernière, on est revenu, les enfants en danger sont redevenus des enfants dangereux. Et c'est là où on remet en route des dispositifs institutionnels dans lesquels on enferme, on réprime les délinquants. Alors qu'on sait très bien que ça ne marche pas, puisqu'on l'a essayé dans les colonies pénitentiaires, dans les centres fermés, etc. Tu évoquais la réforme Perben en 2002 et 2007, ou le 1 et le 2, la création des établissements, des pénitentiaires pour mineurs. Il y en a un par région. À Lavaur, il a 60 places, il est plein en permanence. C'est une cocotte minute. C'est un endroit où un jeune n'est pas fait pour être enfermé. Malgré tout ce qu'on peut lui proposer sur place comme activité, que ce soit formatrice, ludique, culturelle, etc. On n'a qu'une idée en tête, c'est de faire exploser les limites. Enfin, voilà, c'était une petite remarque dans l'historique.
D'où je parle, c'est-à-dire que donc, j'ai été éducateur, responsable de foyer, liberté surveillée, éducateur à la liberté surveillée à Rodez, formateur à Brignoles-Toulouse, animateur régional, responsable d'une institution à Toulouse, animateur régional à Lille, directeur pédagogique de l'école de formation à Savigny-sur-Orge, directeur du CREA et Centre régional en France de l'essence et adaptée de Bordeaux, directeur départemental de l'Aisne, dans l'An, et directeur départemental de Rodez, où j'ai terminé ma carrière il y a maintenant 15 ans sans doute. Voilà.
Merci Jean-Marie.
Bien sûr.
On peut passer peut-être un petit quart d'heure de...